Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 2 décembre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le président Joe Biden est attendu à Angola ce lundi. Ce voyage est censé affirmer les ambitions américaines sur le continent face à la Chine. Une opération de destruction d'habitats insalubres a débuté lundi matin sur l'île française de Mayotte, où un bidonville de 465 cases en tôle va être démantelé. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a gracié dimanche son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Et dans notre partie magazine, au Mali, l'esclavage par ascendance est interdit et criminalisé par une loi votée par le CNT, l'organe législatif de la transition.
Je n'avais pas ma liberté. On me pointait du doigt et je n'avais aucun droit. On m'a refusé l'accès à la terre. Je ne pouvais pas cultiver. Maintenant, je veux juste être libre.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco. Pour l'instant, le journal. Le président Joe Biden se rend enfin en Afrique comme il l'avait promis depuis longtemps pour présenter un projet ferroviaire soutenu par les États-Unis dans 3 pays. Un projet considéré comme une nouvelle approche pour contrer une partie de l'influence mondiale de la Chine. Alexandrine Hollognon.
Joe Biden va évoquer en Angola divers investissements dans le pays et la région, à commencer par le couloir de Lobito, un gigantesque projet de voie ferrée. Le projet, financé en partie par un prêt américain, relie la République démocratique du Congo et la Zambie, riche en ressources naturelles, au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique, offrant ainsi une voie rapide et efficace pour les exportations vers l'Occident. L'enjeu est l'approvisionnement en minerais tels que le cuivre et le cobalt que l'on trouve au Congo et qui sont des composants clés des batteries et d'autres produits électroniques. La Chine est le principal acteur au Congo, ce qui préoccupe de plus en plus Washington. À Luanda, le président américain doit s'entretenir avec le chef d'État angolais et prononcer un discours. Washington promet des annonces en matière de santé, d'agriculture, de coopération militaire et de préservation du patrimoine culturel. Ce voyage de Joe Biden est le premier d'un président américain en Afrique et consacré au continent depuis 2015 et le tout premier d'un chef d'État de la première puissance mondiale dans ce pays pétrolier bordant l'Atlantique.
L'armée malienne a tué dimanche un responsable et plusieurs membres d'une coalition indépendantiste du Nord, constituée la veille. Le Front de libération de l'Azawad, FLA, a-t-on appris lundi des 2 camps. 8 hommes que l'armée présente comme des cadres de haut rang des groupes terroristes ont été neutralisés lors d'une opération d'envergure menée à Tinzawaten, près de la frontière algérienne dimanche. Le FLA, créé la veille à Tinzawaten par la fusion de plusieurs groupes à dominante Touareg, a de son côté rapporté dimanche la mort de 7 des 8 hommes. Cités par l'armée, ils ont été tués par des frappes synchronisées de drones selon le FLA. Au Soudan, des responsables du gouvernement, dont l'armée est en guerre contre les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, ont accusé lundi leurs adversaires d'avoir lancé depuis le Tchad voisin des drones assemblés aux Émirats arabes unis. Les enquêtes montrent que ces drones sont assemblés aux Émirats arabes unis et lancés depuis le Tchad près de la frontière soudanaise, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ali Youssef aux journalistes à Port-Soudan. À Mayotte, une opération de destruction d'habitats insalubres présentée comme la plus grosse jamais réalisée sur l'île a débuté aujourd'hui dans ce territoire français où un bidonville de 465 cases en tôle va être démantelé. Le point avec Jean-Roger Billon.
Prévue de longue date, l'opération de démantèlement attendait l'arrivée de renforts de 2 escadrons de gendarmes mobiles sur le territoire. L'opération pourrait durer environ 2 semaines, étant donné la complexité du site sur un terrain escarpé selon la préfecture. À la place du quartier informel, la municipalité de Kungu envisage de réaliser une zone d'aménagement concertée avec 900 logements, mais aussi des équipements publics, des écoles et des commerces. En 2021, lors du démantèlement d'un quartier voisin, des habitants en colère avaient mis le feu à l'hôtel de ville de Kungu. À l'époque, 350 habitations du quartier avaient été détruites. 4 logements sur 10 sont en tôle sur l'île de 321 000 habitants et 60% des habitats sont dépourvus du confort sanitaire de base. Eau courante, toilette ou douche selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Depuis plusieurs années, les opérations de démantèlement de bidonvilles se multiplient pour lutter contre l'habitat insalubre.
Plusieurs personnalités essentiellement africaines ont écrit dans un recueil publié lundi des lettres de soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023 par un coup d'État et prisonnier depuis. Parmi eux figurent notamment l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, l'ex-premier ministre malien Moussa Mara ou encore l'écrivain guinéen Thierno Monenambo, lauréat du prix Renaudot 2008. Monsieur Bazoum, élu en 2021 et qui n'a jamais démissionné, revendique toujours d'être le président du Niger. Le responsable de la branche jeunesse du parti tanzanien d'opposition Alliance pour le changement et la transparence a été kidnappé dimanche, a annoncé sa formation politique qui accuse les forces de sécurité. Abdoul Nando a été kidnappé dimanche matin près de la gare de bus Mbezi, en périphérie de la capitale économique de Dar es Salaam. La Cour d'appel de Bruxelles a condamné lundi l'État belge pour le placement forcé dans des institutions de 5 fillettes métisses au Congo avant l'indépendance de 1960, estimant que leur enlèvement à leur mère constituait un ordre contre l'humanité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une délégation du Hamas a discuté avec des responsables égyptiens au Caire d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont indiqué lundi deux responsables du mouvement islamiste palestinien. Une réunion s'est également tenue dimanche sous l'égide de l'Égypte entre des représentants du mouvement islamiste palestinien et de la formation rivale du Fatah pour aborder la question de la gouvernance de Gaza une fois la guerre avec Israël terminée, ont indiqué un de ces deux responsables et Jamal Aboubeid, membre de la direction du Fatah à Gaza. Les sécheresses records sur la planète sont en train de devenir une nouvelle forme qui oblige les dirigeants à repenser radicalement leur gestion. C'est l'alerte lancée ce lundi par l'ONU qui a publié un atlas mondial de ce fléau au premier jour de son sommet sur la désertification à Riyad en Arabie Saoudite. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Chaque année, les sécheresses touchent directement 55 millions de personnes et constituent l'un des risques les plus coûteux et les plus meurtriers au niveau mondial. C'est ce qu'indique l'atlas publié par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. L'année 2024, qui sera vraisemblablement la plus chaude jamais mesurée sur Terre, a été marquée par plusieurs sécheresses dévastatrices en Méditerranée, en Équateur, au Brésil, au Maroc, en Namibie, au Malawi, provoquant incendies, pénurie d'eau et de nourriture. Selon un rapport de l'ONU publié fin 2023, les sécheresses ont affecté 1,84 milliard de personnes en 2022 et 2023, dont environ 85% vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et d'ici 2050, ce sont 3 personnes sur 4 dans le monde qui seront touchées, selon les projections, en raison du réchauffement climatique causé surtout par la combustion des énergies fossiles. D'après Ibrahim Chow, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'Atlas a pour but d'inciter les dirigeants publics et privés à repenser radicalement leur manière de prendre des décisions et de gérer les risques de sécheresse. Cette COP 16 se tient à Riyad du 2 au 13 décembre.
À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden est finalement revenu sur sa parole en graciant son fils Hunter, alors que celui-ci attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Jacques Aristide.
Aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant Hunter ne peut aboutir à une autre conclusion que celle-ci. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il s'agit de mon fils et cela ne va pas, a déclaré le président Biden dans un communiqué publié hier, décrivant une erreur judiciaire. Le dirigeant démocrate avait pourtant assuré à maintes reprises qu'il n'accorderait pas la grâce présidentielle à son fils. Hunter Biden, 54 ans, a plaidé coupable en septembre de fraude fiscale devant un tribunal de Los Angeles, en Californie, affaire dans laquelle il risquait jusqu'à 17 ans de prison. Pour l'usage d'armes à feu, il encourait 25 ans d'emprisonnement. Hunter Biden a dit aux médias américains qu'il allait consacrer la vie qu'il a reconstruite à aider ceux qui sont encore malades et qui souffrent. Le président élu Donald Trump a réagi dans un message publié sur son réseau Truth Social hier soir. La grâce accordée par Dieu à Hunter inclut-elle les otages du 6 janvier qui sont emprisonnés depuis des années ? Quel abus et quelle erreur judiciaire, a-t-il écrit. Le républicain a promis de gracier toutes les personnes condamnées pour avoir envahi le Capitole le 6 janvier 2021.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manelakiza.
En Libye, une pénurie de liquidités pousse de nombreux habitants à se tourner de plus en plus vers les cartes bancaires. Dans presque toutes les villes libyennes, les retraits d'espèces s'apparentent à un parcours du combattant avec des heures passées devant les portes closes et bien gardées des banques où les clients n'entrent qu'au compte-gouttes. Une fois retiré, l'argent est rarement réinjecté dans le circuit bancaire, les Libyens n'ayant pas confiance dans le système et préférant garder leurs espèces chez eux, ce qui alimente des pénuries régulières de billets. Le gourou de l'intelligence artificielle Sam Altman s'est montré dimanche confiant dans la capacité de la future administration Trump à soutenir le développement de cette industrie, tout en estimant que le Congrès devrait légiférer pour encadrer cette nouvelle technologie. Vendredi, Elon Musk a de nouveau demandé à la justice américaine d'empêcher OpenAI de se transformer en une entreprise entièrement à but lucratif. Les négociations menées pendant une semaine à Busan, en Corée du Sud, pour parvenir à un traité mondial contre la pollution plastique, ont échoué dimanche face à l'opposition d'un groupe de pays pétroliers et devront reprendre à une date ultérieure. Pendant une semaine, les représentants de plus de 170 pays ont tenté de trouver une solution pour réduire la pollution plastique qui envahit les océans, les sols et s'infiltre à l'intérieur du corps humain.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Nous commençons par ce drame en Guinée qui a fait au moins 56 morts parmi des supporters de foot.
Oui, ce drame s'est produit en Zérékouré, dans le sud-est de la Guinée. Un mouvement de foule lors d'un match de foot dédié au président de la transition a causé la mort d'au moins 56 supporters hier, selon le gouvernement. Ces événements, d'abord présentés comme des heurts entre supporters, ont été déclenchés par l'expulsion d'un ou deux joueurs et un pénalty aux dépens de l'équipe de l'Abbé. À la fin de la partie, l'opposant au 11 local en finale d'un tournoi doté d'un trophée Mamadi Doumbouya, le chef de l'État. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
Handball et nous prenons la direction de Kinshasa. Le pays hôte est en quart de finale.
La République démocratique du Congo a décroché sa qualification après sa victoire 32-24 aux dépens de la Guinée. Dans ce groupe B, l'Angola poursuit son sans-faute, troisième victoire de suite pour les quadruples champions d'Afrique qui ont battu le Cameroun 31-14 pour ce qui est du match choc de cette poule. Le Sénégal reste aussi invaincu dans le groupe A après avoir remporté son quatrième match 23-16 contre l'Algérie. L'Égypte, classée deuxième, a dominé le Kenya 45-17. Le Congo se rapproche de la qualification en quart de finale après avoir battu 25-21 le Cap-Vert. Les Diablesses handballeuses joueront leur qualification demain mardi face au Sénégal. Le programme de cette dernière journée des matchs de poule s'annonce alléchant et on aura aussi Tunisie-Cameroun ou encore RDC-Angola.
En athlétisme, Lestile Tebogo élu athlète de l'année.
Le Botswanais a été récompensé à Monaco après qu'il est devenu en août le premier sprinteur africain sacré champion olympique du 200 mètres. À Paris, il avait coupé la ligne en 19 secondes 46 devant les Américains Kenny Bednarek et le favori Noah Lyles. Chez les femmes, la Néerlandaise Sifan Hassan a été récompensée pour son enchaînement fou lors des JO. En 10 jours, elle avait couru 2 5 000 mètres série et finale, un 10 000 mètres et un marathon et réussit à décrocher 3 médailles en 3 courses, dont lors du marathon. World Athletics a aussi récompensé l'Éthiopien Tamira Tola, champion olympique du marathon.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique, Rosine Munezero de retour pour les dossiers du jour. La visite cette semaine du président Joe Biden en Angola, la première d'un président américain dans ce pays du sud-ouest de l'Afrique, est centrée sur un corridor ferroviaire qui permettrait d'acheminer des minéraux précieux du cœur du continent vers un port angolais en plein essor. Il insistera également sur le besoin de stabilité et de démocratie comme moteur de croissance du continent. Le reportage d'Anita Power, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, récit Michel Joseph.
Le président de l'Angola est une personnalité de premier plan sur le continent africain. Il utilise son statut de dirigeant d'un géant pétrolier pour asseoir son influence et œuvrer au règlement des conflits régionaux. Le président João Lourenço accueille cette semaine un nouvel ami puissant, le président Joe Biden, pour la première visite d'un président américain en Angola. Joe Biden profitera de sa visite pour mettre en avant un important projet de développement financé par les États-Unis, le corridor ferroviaire de Lobito, long de 1300 km, qui relie l'intérieur de l'Afrique, riche en minerais, au port du sud-ouest. Les États-Unis affirment avoir rassemblé plus de 3 milliards de dollars d'investissements privés et publics dans ce projet. Selon la Maison-Blanche, les relations entre les deux pays connaissent une véritable transformation à mesure qu'ils deviennent des partenaires plus étroits. Karine Jean-Pierre est porte-parole de la Maison-Blanche.
Ensemble, les États-Unis et l'Angola s'efforcent de relever un large éventail de défis urgents, qu'il s'agisse de réduire le déficit d'infrastructures en Afrique, d'accroître les opportunités économiques et le développement durable dans la région, de développer les technologies et la coopération scientifique, de consolider la paix et la sécurité ou de renforcer la sécurité alimentaire.
Certains analystes estiment que le vœu de Biden de se rendre en Afrique en 2022 a fait long feu. Biden avait initialement prévu de se rendre en Angola en octobre, mais l'arrivée de l'ouragan Milton l'a contraint à reporter sa visite. Cameron Hudson est chercheur principal au sein du programme Afrique du Centre d'études stratégiques et internationales.
I think coming as it does...
Je pense que cette visite se verra plutôt creux si elle intervient à la toute fin de son administration sans qu'il y ait grand-chose à célébrer. Je pense à un terme d'engagement en Afrique.
Lourenço et Biden ne sont pas d'accord sur tout. Alors que le soutien de Biden à Israël est inébranlable, l'Angola s'aligne davantage sur la position des pays du Sud.
Israël a le droit de se défendre et de protéger la vie de ses citoyens. Mais le même droit s'applique aux Palestiniens, qui vivent sous occupation depuis des décennies. Une situation inacceptable.
Mais une chose sur laquelle il et la Chine s'accordent est le besoin urgent de développement de l'Afrique. La Chine a fait de profondes incursions sur le continent, avec son initiative La Ceinture et la Route, plus vaste et mieux établie. Xu Jinping est un responsable chinois du développement qui cite les résultats obtenus au cours de la dernière décennie.
Au cours des 11 dernières années, les entreprises chinoises ont participé à la construction et à la rénovation de plus de 10 000 km de chemin de fer, de près de 100 000 km d'autoroutes, d'un millier de ponts, d'une centaine de ports, de 66 000 km de lignes de transmission et de transformation de l'énergie et de 150 000 km de réseaux de communication de base dans divers pays africains.
Les analystes estiment que ce n'est pas une bonne position pour le continent. Si ce voyage en Afrique est une première pour Biden, c'est aussi, d'une certaine manière, un dernier chapitre. Il s'agit probablement de son dernier voyage à l'étranger, de ses adieux au monde en tant que président des États-Unis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, un match de football a tourné au drame hier en Zérékoré, une ville située dans le sud-est du pays. Le gouvernement de transition annonce un bilan provisoire de 56 morts et de plusieurs blessés. Selon plusieurs témoignages, des contestations de supporters suite à une décision de l'arbitre suivie de jets de gaz lacrymogène des forces de l'ordre ont provoqué des bousculades mortelles. Tierno Modumba a joint Alexis Collier, un journaliste basé à Zérékoré.
Lors des contestations, il y a un groupe de jeunes qui s'est livré à des jets de pierre au niveau de la tribune. Et du coup, voilà ce qui a suscité la panique au sein du stade. Dans cette débandade, la police a usé du gaz lacrymogène pour tenter de calmer les ardeurs. Malheureusement, les choses ont tourné autrement. Les spectateurs, les supporters se sont mis à courir dans tous les sens. C'était le sauve-qui-peut. Ça vient à un drame, à une bousculade à l'intérieur comme à la devanture du stade.
Juste après les incidents, vous vous êtes rendu au stade de Nzérékoré. Il y a des images sur les réseaux sociaux qui montrent des corps à même le sol. Qu'est-ce que vous avez vu?
Hier soir, du côté de l'hôpital régional de Nzérékoré, on pouvait compter des corps par dizaines et plusieurs blessés également. Des véhicules particuliers, des pick-up de forces de l'ordre et aussi des véhicules de l'administration ont servi à l'acheminement de ces corps également, de ces blessés au niveau de l'hôpital régional de Zérékoré. Vous savez, hier, c'était dimanche, donc c'était le service minimum. Donc, avec le nombre important de corps qui a été évacué du côté de l'hôpital régional, donc les couloirs et même les soins intensifs, tout était bondé de corps. On pouvait compter les corps par dizaines. Donc le personnel soignant était un peu plus débordé par rapport aux blessés et au nombre de morts.
Le gouvernement a fait un communiqué parlant de 56 morts et appelé au calme. Quelle est la psychose actuelle dans la ville? On apprend que le réseau Internet est fortement réduit actuellement.
Fortement réduit parce que là, depuis la matinée, on n'a pas pu avoir accès à Internet. Les parents des victimes qui se sont massés très tôt le matin au niveau de l'hôpital n'ont pas pu avoir accès parce que tous les issues ont été bloquées par les forces de l'ordre. Certains parents qui étaient venus désespérément chercher leur corps n'ont pas pu les récupérer. C'est le choc à travers la ville, la désolation à travers Zérékoré. La population a en tout cas dénoncé ce qu'on appelle une utilisation excessive du gaz lacrymogène dans un stade. Un stade vraiment dans un état très piqueux depuis très longtemps. Et à l'instant dont je vous parle, les forces de l'ordre ont été déployées à travers la ville pour pouvoir dissiper les tensions.
Alexis Collier, journaliste basé à Nzérékoré. Au Mali, l'esclavage par ascendance est criminalisé et interdit par une loi votée par le CNT, l'organe législatif de la transition. Cette loi vise à mettre fin à cette pratique enracinée dans les habitudes et les traditions dans certaines parties du pays. Les détails avec Georges Attino.
À chaque fois que je pense à la mort de Diogo Sidibé, j'ai les larmes aux yeux.
Tontou Diarra raconte avec émotion l'histoire de Diogo Sidibé. Un symbole, s'il en fallait un, de la réalité brutale de l'esclavage par ascendance au Mali. Cette femme de 71 ans avait été tuée en juillet 2022 pour avoir refusé le statut d'esclave. Des violences qui ont poussé de nombreuses familles à fuir l'ouest du pays. Aujourd'hui, près d'une centaine de familles ont trouvé refuge à Bamako, dont celle de Assitan Koulibaly.
Je n'avais pas ma liberté. On me pointait du doigt et je n'avais aucun droit. On m'a refusé l'accès à la terre. Je ne pouvais pas cultiver. Maintenant, je veux juste être libre, être comme tout le monde, parce que je ne suis pas esclave.
Ces actes, même rapportés devant la justice, n'avaient pas de fondement légal en raison d'un vide juridique que vient combler le nouveau code pénal adopté par l'organe législatif de la transition. Aguibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme, se félicite de l'adoption d'un tel texte de loi.
La loi va permettre de combler un grand vide parce que avant la loi, et nous accueillions les esclavagistes devant les juridictions, mais souvent on nous rétorquait qu'il n'y a pas de disposition légale qui incrimine ou qui criminalise l'esclavage par ascendance dans notre pays. Donc ça pouvait jouer sur le cours des procédures judiciaires. Maintenant que la loi criminalise clairement, incrimine clairement l'esclavage par ascendance, ces prétextes ou ces arguments ne pourront plus éliminer. Donc ça, c'est un vrai motif de satisfaction.
Pour assurer une meilleure compréhension de ces textes de loi dans les langues nationales, des campagnes de sensibilisation sont prévues par la Commission nationale des droits de l'homme dans plusieurs régions du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Il y a 10 ans, 80% des Africains pensaient que la démocratie était la meilleure forme de gouvernance et qu'ils choisiraient toujours plutôt qu'un régime militaire ou dictatorial. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 66% depuis le Ghana. Ça nous tord. S'entretient avec un ancien officier militaire devenu défenseur de la démocratie et avec des jeunes Ghanéens de plus en plus déçus de leurs élus. Et récit Eric Manilakiza.
Des milliers de jeunes Ghanéens descendent dans la rue pour exprimer leur mécontentement à l'égard des dirigeants du pays et demander la libération de 53 jeunes manifestants détenus en septembre pour avoir protesté contre l'exploitation minière illégale. Joshua Boïdou, un influenceur des médias sociaux devenu activiste, dirige le rassemblement. Avec une audience en ligne d'environ 2 millions de personnes, Boïdou utilise sa plateforme pour canaliser les frustrations des jeunes.
Ils sont fatigués des allers-retours incessants entre les deux principaux partis du pays.
Joshua Boïdou dit qu'il constate une désaffection croissante pour la démocratie chez les jeunes. Est-ce qu'ils perçoivent comme un manque de responsabilité de la part des dirigeants des principaux partis politiques au Ghana, un pays qui est passé d'une histoire de coup d'état militaire à un phare de la stabilité régionale?
Ils disent que ce parti va voler le peuple et lorsque l'autre parti arrive, ils ne lui demandent pas de rendre des comptes. En fait, les jeunes veulent voir des gens en prison pour avoir volé le pays.
Le général Joseph Nuno Mensa, âgé de 88 ans et vétéran de la politique, compatit avec les jeunes.
J'aurais détesté devenir l'un d'entre eux aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucun espoir.
Selon Afrobaromètre, bien que 66% des Africains préfèrent la démocratie à d'autres formes de gouvernance, la frustration liée aux attentes politiques et économiques non satisfaites a conduit 53% des personnes interrogées à se déclarer ouvertes à une intervention militaire. Mais Nuno Mensa, qui a participé au coup d'État de 1978 au Ghana, affirme que l'incursion des militaires en politique n'est pas une option.
Une fois que l'armée est impliquée dans la politique, vous êtes sur la voie de la destruction. Cela peut prendre du temps, mais cela viendra.
Nuno Mensa a affirmé que le rôle de l'armée est de sauvegarder le pays et de protéger sa démocratie.
Regardez le Soudan aujourd'hui. Ces militaires qui sont censés unir et défendre le Soudan se battent pour le pouvoir. Ils se battent pour le pouvoir parce que le pouvoir corrompt aussi.
Au cours des 10 dernières années, Afrobaromètre a constaté un net recul de la préférence des Africains pour la démocratie, exacerbé par des élections truquées. L'organisation souligne qu'il est essentiel de garantir des élections libres et équitables pour inverser cette tendance.
Les citoyens peuvent se rendre aux urnes en sachant que ce qu'ils y disent reflète la volonté réelle du peuple et qu'ils savent qu'ils peuvent chasser un gouvernement s'il se comporte mal. Lorsque les élections deviennent aussi efficaces, la relation de responsabilité commence à se construire à partir de là.
Alors que le Ghana se prépare pour les élections du mois prochain, M. Boïdou rassemble les jeunes contre l'apathie des électeurs, les exhortant à garder espoir et à participer au processus démocratique. Se taire et abandonner n'est pas une option, affirme M. Boïdou.
Pour là, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à la rédaction et à toute l'équipe de production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Morissant. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.